On est quel jour aujourd'hui?
Bah pourquoi?
Quand ça?
Mais pourquoi?
Où? Quoi ça?
Ah pourquoi?
Pour les promesses de l'aube.
Quand ça?
Radio Panique, 105.4 FM.
Ça?
7h-9h?
Eh, le vendredi aussi.
Des promesses, toujours des promesses.
D'accord.
Nous sommes en compagnie de notre invitée, Aïda. Bienvenue, Aïda.
Merci, bien le bonjour.
Bonjour à toi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que ça va mieux? Tu me disais que tu n'entendais pas très bien dans ton casque, là,
oui,
comme ça.
Oui, ah. Voilà, ça y est.
C'est un peu trop là.
Non, c'est parfait.
Voilà. Donc, Aïda, ça fait quelques semaines déjà qu'on parle un peu de l'organisation de la première grève des femmes, grève féministe en Belgique. Cette grève qui aura lieu le 8 mars prochain. Donc, c'est tout bientôt. Ça s'organise depuis quelques mois. En septembre, je pense, il y a deux femmes du collectif qui étaient déjà venues nous présenter, nous parler de cette première assemblée qui avait lieu, si je ne me trompe, aux alentours du 7 octobre. Mais peut-être que je me trompe dans la date. Et donc, lors de cette première assemblée, l'objectif c'était de définir un peu ce que les femmes voulaient. Il y a environ 170-180 personnes, femmes, qui sont venues. Et donc, depuis lors, il y a une commission qui s'est mise en place, une commission inclusivité, qui veille à ce que ce mouvement soit d'une part le plus inclusif possible, et d'autre part a réfléchi aussi à cette question de la non-mixité. Donc c'est pour ces deux aspects-là de l'organisation que je t'ai invitée aujourd'hui.
Oui.
Moi, je t'entends pas très bien non plus, mais ça va aller dans mon casque. Je sais pas, est-ce que tu peux tout d'abord comme je le disais, 170 femmes, 180 femmes, et depuis lors, à chaque assemblée mensuelle, il y a plus d'une centaine de femmes qui participent. C'est une organisation en non-mixité ou en mixité choisie. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que veut dire cette mixité choisie?
Alors, en fait, la mixité choisie, ça veut dire que, donc, on se définit comme un mouvement de femmes, et donc qui est non mixte pour les hommes cis. Alors, cis, c'est l'opposé de trans, en fait. Ça veut dire toute personne qui se reconnaît dans le genre qui lui a été assigné à la naissance. Bon, par exemple, quand je suis née, ils ont fait « c'est une petite fille !» Et je me reconnais toujours dans cette identité de femme. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et donc ici, l'idée, c'est d'avoir donc un mouvement entre femmes. Mais par femme, on entend toute personne qui s'identifie et ou qui est identifiée par la société comme femme. Ça inclut donc les femmes trans, les hommes trans et les personnes non binaires, les personnes intersexes. Alors évidemment, ça paraît un peu improbable, et pour certaines personnes, c'est compliqué à comprendre pourquoi est-ce que des hommes trans seraient intéressés par le féminisme. Mais donc, historiquement parlant, le féminisme, il s'intéresse beaucoup aux questions des droits reproductifs. Or, les droits reproductifs, ils ne concernent pas seulement les femmes. Les droits reproductifs, ils concernent toutes les personnes qui sont en possession d'un utérus et qui potentiellement ont un risque de tomber enceinte, qui potentiellement auraient besoin de visites chez la gynécologue et qui, ou parfois, on a des gros problèmes avec ça. De la même manière que les femmes trans vivent également le sexisme, et toute personne qui est identifiée par la société comme n'étant pas un homme cisgenre vit le sexisme. Donc du coup, pour nous, c'était extrêmement important, dès le départ, de vraiment mettre l'accent, de vraiment s'assurer que c'était un espace, qu'on créait un mouvement qui serait un mouvement féministe au sens large, un mouvement féministe intersectionnel. Alors ça fait un peu buzzword. L'intersectionnalité, ça veut dire il s'agit de prendre en compte les différentes identités et les différentes raisons pour lesquelles les personnes sont opprimées ensemble.
Et est-ce que tu peux développer un peu plus pour les auditeurs, auditrices de Panique, cette notion-là?
la notion d'intersectionnalité. Oui. Alors, donc,
parce que c'est une notion justement qui, dans les mouvements féministes et dans les mouvements militants en général, on dit toujours, le mouvement féministe s'est souvent trouvé confronté à l'idée, mais non, on va faire ça après l'égalité femmes. D'abord, on va se libérer du capitalisme ou d'abord, et je pense que c'est la même chose pour les personnes racisées. Non, t'inquiète, quand il y aura plus le capitalisme,
mais tout ira bien. C'est l'histoire des mouvements sociaux depuis le départ. À partir du moment où on a eu le mouvement ouvrier au 19e siècle, il y avait des femmes au premier rang de ces mouvements ouvriers et qui étaient là. On a des problèmes spécifiques et les hommes étaient en mode oui, bon, on s'occupera de vous quand on aura vaincu le capitalisme. Nous sommes en 2019, nous attendons toujours que le capitalisme tombe, d'où aussi une montée des suffragettes, etc., pour demander le droit de vote. Ce mouvement-là, par exemple, il y avait des femmes noires qui étaient présentes, en Angleterre notamment, à qui on a demandé de marcher derrière, à qui on a dit que les questions de lutte contre la traite esclavagiste et contre le racisme, etc., n'étaient pas à l'ordre du jour, que le plus important, là maintenant tout de suite, c'était le droit de vote pour les femmes cis, blanches, hétérosexuelles, en possession d'une propriété, enfin, pas Madame Lambda, quoi. Et donc, en fait, ça, dans l'histoire des mouvements sociaux, depuis le départ, on a très très fort ce côté où on s'occupe d'une chose à la fois. Le terme intersectionnalité, il a été... posé vraiment en tant que tel et expliqué et théorisé par Kimberly Crenshaw, qui est une juriste américaine en 89. C'était pas une nouvelle notion et en fait ça venait du constat des femmes noires aux États-Unis. Ça vient d'un cas dans une si je me rappelle bien, c'était un procès dans le cadre du monde du travail où la personne était discriminée non seulement parce que c'était une femme mais parce qu'en plus elle était noire. Or on lui demandait de choisir soit de poser son argument sur le fait que c'était une femme ou de poser son argument sur le fait qu'elle était noire. Or on ne choisit pas d'être soit noire, soit femme. De la même manière ici que c'est vrai que dans ce féminisme universaliste qu'on a beaucoup vu et en fait qui a été le mainstream jusqu'à maintenant et qui commence doucement à se faire pousser sur le côté, c'est une idée que la femme est une femme, qu'elle a les mêmes droits partout dans le monde. Alors, c'est très joli, mais le problème, c'est que généralement, la femme qui réfléchit à ça est une femme blanche, cisgenre, généralement hétéro, et valide, et de classe moyenne, blablabla. Et donc, du coup, cette personne, qui est-ce qu'elle a en tête quand elle définit les droits des femmes? Quand on regarde les campagnes dites féministes, même de ces dernières années, on a beaucoup, par exemple, on se focalise beaucoup sur le harcèlement de rue. Ça veut pas dire que le harcèlement de rue, c'est pas quelque chose qui est problématique. C'est problématique, le harcèlement de rue, on est bien d'accord. Et que nous ne sommes pas des objets, c'est clairement important. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça et qui est-ce qu'on vise? Parce que certaines personnes vivent un sexisme qui est variable, en fait. On n'a pas toutes le même sexisme, on n'a pas toutes les mêmes problèmes. Et donc, à force d'aller sur des choses très précises, on occulte et on invisibilise toute une partie de la population. Donc, enfin, moi, personnellement, je suis convaincue qu'un féminisme ne peut fonctionner que si jamais il prend en compte la diversité, la multitude d'identités qui se cachent derrière le mot femme, du coup, avec une astérisque, hein, parce que quand on dit femme, on entend bien toute personne qui s'identifie et ou qui est identifiée comme femme. Mais, fatalement, ce mouvement, il couvre, sciemment, on se focalise que sur une seule personne, on n'avance pas beaucoup. On est très très vite bloqué, quoi.
Et du coup, tu parlais de cet astérix, astérisque, grand matin, qui est présente justement sur tous les documents du collectif, donc pour bien signaler que c'est grève des femmes, et puis ou
des femmes cis, trans, non binaires.
Comme femme. Comment ça s'est passé cette réflexion? Est-ce que c'était une évidence pour tout le monde? Est-ce que c'est quand même dans ce mouvement féministe, comme tu disais, est-ce que c'est un travail qui prend du temps, qui nécessite beaucoup de discussions? Quelles sont les pierres d'achoppement, on va dire, pour que ça se passe bien?
Alors, à la base, ça a pris un peu de temps. À la base, c'était pas évident. On s'est un peu lancé là-dedans nous, on, parce que c'était la première réunion, c'est toujours, on regarde un petit peu dans la pièce. Enfin, moi, je suis une femme noire et c'est vrai que je suis arrivée. Mon premier réflexe maintenant, partout où je vais, c'est de compter le nombre de femmes noires qui se trouvent dans la pièce. J'ai pas été très loin. On n'était pas très nombreuses. Et puis ensuite de se rendre compte un peu, ok, alors qui est dans cette pièce et donc qui va prendre des décisions, à quoi va ressembler le mouvement si jamais on part, si jamais on reste, comment ça va se passer. Et puis nous là ici, on a très très vite décidé de mettre en place cette commission inclusivité. On est quelques motivés dedans. Et une des premières choses qu'on s'est dit vraiment, c'est que ça devait être un mouvement qui devait être trans-inclusif. Donc de nouveau, hein, la petite astérisque sur le femme. Alors en effet, cette astérisque, elle est sur tous les documents ou presque, parce que nous sommes un collectif, donc des documents sortent de partout. Nous, dans la commission inclusivité, notre travail, c'est d'être vigilante et de pointer du doigt en disant, ah, attention, vous avez oublié l'astérisque, attention, la phrase. Là, ici, vous trouverez encore sûrement pas mal de documents sur lesquels il est noté toute personne s'identifiant comme femme. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec le cas des hommes trans, qui eux aussi ont besoin, en fait, des avancées féministes, eh ben, en fait, là, on a un souci. Donc, ça a été dit. La commission com a été au taquet, a changé partout où c'était possible tout de suite. On attend encore qu'une petite astérisque soit ajoutée sur le filtre Facebook, parce qu'on a un magnifique filtre pour les photos de profil maintenant, mais il manque la petite astérisque sur le women. Et pour l'événement aussi, on m'a dit qu'il nous restait plus beaucoup de changements possibles sur l'événement et que donc ça allait passer dans dans le prochain lot de changements sur la page de l'événement. Mais sinon, en effet, c'est quelque chose qu'on met en place. Ça a pas été évident parce que en fait, déjà, tout le monde n'est pas familière, en l'occurrence, parce qu'on parle au féminin dans notre collectif, même si on demande à tout le monde de respecter les pronoms d'usage, même si ceux-ci sont masculins, etc. Mais beaucoup de personnes n'étaient pas du tout familières avec les questions liées aux transidentités, les questions des pronoms, même le mot cis n'est pas un mot qui est déjà rentré dans le mainstream. Il y a de plus en plus de personnes qui sont conscientes de ce que c'est une personne trans, mais ne connaissent pas l'opposé qui est en fait une personne cis. Alors du coup, nous on a dû déjà commencer par justifier quelle était l'utilité d'une commission inclusivité. Pourquoi c'était pas évident pour tout le monde? Et donc, ce qu'on a dit, c'est qu'en plus du sexisme qu'on vit toutes, certaines d'entre nous vivent également des discriminations basées sur leur couleur de peau, sur leur phénotype, sur leur identité de genre, sur leur expression de genre, sur leur orientation sexuelle, sur leur état de santé, sur leur mobilité, sur leur âge, sur leur classe. C'est une liste qui n'en finit pas et il est très très important d'en prendre tous les tenants et les aboutissants, notamment les questions également de d'être ou non en possession de papiers en Belgique. Par exemple, le combat féministe mainstream se base beaucoup sur l'égalité salariale. Certaines personnes n'ont même pas accès à l'écart salarial. Certaines personnes n'ont même pas accès à un emploi où elles sont protégées. Ou ce n'est pas, parce que c'est le problème de, à partir du moment où on n'a pas de papier, comment est-ce qu'on fait pour être protégé, pour avoir une mutuelle, pour, ça met des personnes dans des situations d'extrême précarité.
Et du coup, comment on arrive à cette inclusivité? Donc, j'entends bien que l'idée, c'est aussi de prendre en compte ceux qui sont les plus vulnérables, on va dire, ceux et celles qui sont les plus vulnérables dans ce cas-ci. Comment on construit des revendications du coup sur à partir de qui, parce qu'il y aurait toujours quelqu'un qui dirait mais ça c'est pas ma vie, c'est pas mon cas, c'est pas ma situation, moi je me reconnais pas là-dedans dans ces revendications. Comment on peut gérer enfin dans ce mouvement-ci ou de façon plus générale dans le mouvement dans des mouvements militants hein, à partir de quel est le commun dénominateur, on va dire, on va pas dire le plus petit commun dénominateur, mais...
Alors, personnellement, je pense que c'est une question de rester assez précise pour qu'on sache de quel domaine on parle, assez large pour que ça puisse inclure toutes les diversités d'expériences. Clairement, l'inclusivité en soi, c'est déjà un terme qui est problématique parce que c'est très dominant. C'est venez, on va vous inclure. mais l'inclusivité en soi, l'inclusivité parfaite, exhaustive, éternelle, on ne l'aura pas comme ça. Là, ici, maintenant, tout de suite, ce qu'on essaye de faire, c'est pas de rendre l'espace parfaitement inclusif, c'est de rendre l'espace aussi accueillant que possible pour la diversité qui se cache derrière le mot femme avec une astérisque. Et je pense que la clé, c'est d'être à la fois bienveillante, mais en plus d'être vraiment à l'écoute. Et de vraiment dire, OK, en fait, tu sais quoi, cette expérience-là, moi, je ne la vis pas, donc j'y avais pas pensé. Viens, dis-nous. Ici, on est, je le répète beaucoup par rapport, on a créé une charte d'inclusivité, un manifeste d'inclusivité pour essayer, qui est un outil pour essayer justement de rendre cet espace aussi accueillant que possible en donnant quelques petites pistes. Eh ben, je me suis perdue dans ma pensée.
Cette charte, elle reprend quoi cette charte? Donc, quels sont quelques éléments
Alors dans les éléments de cette charte, par exemple, le premier élément, c'est vraiment de nommer les normes. Ça paraît étrange pour beaucoup de personnes, mais on qualifie tout ce qui est en dehors d'une norme présumée, d'une soi-disant norme, qui serait en fait l'homme blanc cisgenre hétéro. Donc, on va préciser femme, on va faire préciser noir, on va préciser asiatique, même si ça ne veut pas dire grand-chose. On va préciser toute une série, on va préciser trans. On va rarement se dire, OK, je suis une femme blanche cisgenre hétéro. Or ça, je pense que c'est le premier pas. Dans le cadre du collectif, la question très importante avec le fait de nommer les normes, c'est par exemple, on parlait de couple. Il y a eu à un moment une question de faire une grève du sexe. Ok. Mais quand on parle d'une grève du sexe pour les dynamiques de couple, c'est important de préciser couple hétéro en fait. Parce que on a un grand nombre de lesbiennes, les lesbiennes ont toujours été au premier rang dans les combats féministes. C'est pas un problème pour elle, en fait, la grève du sexe. Ça va pas vraiment changer la dynamique hétéropatriarcale au sein du couple. C'est pas vraiment un élément. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on ne mentionne pas ce hétéro, ben, en fait, on part du principe que tous les couples sont hétéros, sauf les quelques exceptions. Mais du coup, on est complètement invisibilisé dans les quelques exceptions. De même que...
Après, on part aussi de la conception que tout le monde est en couple.
On part aussi de la conception que tout le monde est en couple ou que tout le monde a une vie sexuelle.
Oui, c'est ça.
Il y a toute une série de personnes qui sont asexuelles, ça ne les concerne pas non plus. C'est pas pour ça que ces personnes ne veulent pas faire grève. Et donc du coup, ça a été un peu la question qu'on a construit ces revendications. Ça a été toujours de montrer du doigt là où, attention, on va trop dans les détails. Par exemple, le combat féministe est très connu pour son combat pour le droit à l'avortement, à la contraception, qui sont en effet des questions essentielles. Encore une fois, comme je le disais, par exemple, les lesbiennes étaient au premier rang de ces combats également. Maintenant, la question de la contraception n'est pas un problème primaire pour la lesbienne de base. La lesbienne classique n'a pas vraiment besoin de contraception a priori. Et donc, du coup, la question, c'est de dire, mais alors, quand on parle des droits reproductifs, est-ce que ces droits reproductifs, on se limite à la contraception et à l'avortement? Parce qu'en fait, dans les droits reproductifs, il y a aussi le droit d'aller chez la gynécologue sans se faire remballer parce que n'ayant pas de pénis dans votre vie, vous n'avez pas besoin de moi, madame. Et c'est quelque chose qui arrive énormément. Les violences obstétricales, on parle beaucoup des violences obstétricales dans le cadre de l'accouchement. On en parle beaucoup moins dans le cadre des visites quand on est un homme trans ou quand on est lesbienne ou et autres, même quand on est une femme noire. Et ce sont des choses, en fait, dont la plupart, et je dis la plupart des gens, en vrai, je devrais dire, dont la plupart des femmes blanches cis-hétéros n'ont pas conscience, tout simplement parce que c'est quelque chose qui ne traverse pas leur quotidien. Et donc, c'est là qu'on est vigilante, c'est là qu'on essaie d'être vigilante dans la commission inclusivité, c'est-à-dire, OK, d'accord, mais attention, parce que là, quand vous dites ça, vous fermez la porte. Quand on fait ceci, là, en fait, on exclut toute une partie de la population. Tout le monde n'a pas... Et donc, en fait, la commission revendication a fait un travail de fou, vraiment, parce que c'était incroyable. Parce qu'en fait, elles ont réussi à récupérer énormément de revendications. Hein. Ça s'est fait de manière collégiale, ça s'est fait en travail en AG, ça s'est fait en sous-groupe, etc. Et à entendre à chaque fois toutes ces petites nuances qui fait que, à ce que je vois, les... Et encore, hein, je n'ai pas du tout la science infuse, mais